Donc voilà, j'ai le privilège de faire cette plénière aujourd'hui. C'est un peu pour moi difficile parce que cette année a été particulièrement déconnectée, on va dire. Et donc, je suis très heureuse qu'on ait quand même réussi à faire ce colloque aujourd'hui. Et donc, je vous remercie pour cette proposition de faire cette plénière. Alors, moi, je suis en Afrique du Sud. J'appartiens à la zone atelier Wangé. Et donc, la communication que j'avais proposée pour ce colloque était de s'intéresser à l'évolution des contributions de la nature aux hommes dans le socio-écosystème de Wangé. Alors, nous, on est un peu loin de la mer. On n'a pas beaucoup de rivières. Elles sont sèches une grande partie de l'année. Pourtant, on a eu quelques vagues de crise aussi. Et donc, quelque part, on est, je pense, au sein du réseau des zones ateliers, des outliers au niveau des écosystèmes qu'on étudie, mais je suis persuadée de la pertinence quand même de l'apport du modèle de Wangé pour comprendre justement le fonction des socio-écosystèmes. Alors, moi, j'utiliserai le terme socio-écosystème dans ma présentation. Effectivement, on pourrait débattre longtemps de l'objet dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse tous, en fait, qui est notre planète, je pense, et à différentes échelles. Et donc, aujourd'hui, dans cette présentation, je proposais aussi une construction transdisciplinaire de sa trajectoire. Malheureusement, je suis désolée, mais étant donné le contexte, je n'ai pas pu retourner au Zimbabwe, je n'ai pas pu travailler sur ce sujet tel que je l'aurais voulu, en ayant écrit le résumé. Donc, ça va être légèrement différent. Beaucoup de mes collègues de la zone atelier Wangé ont contribué à cette présentation aujourd'hui, donc je les remercierai au cours de ma présentation. Alors, pourquoi s'intéresser à la trajectoire des socio-écosystèmes? C'est un sujet un peu brûlant et je pense qu'en tant que scientifique, en tout cas pour moi, c'est extrêmement difficile de ne pas m'engager sociétalement et de trouver ma place. Il y a 50 ans, donc c'est quand même ça date. Le Club de Rome avait émis un rapport en alertant de l'impact d'un modèle de développement type business as usual sur les capacités de notre système à continuer à fournir des services. Et donc aujourd'hui, on est en 2020, on a passé l'année enfermée et on observe beaucoup de changements sur notre planète. Et en fait, j'aimerais vraiment penser qu'on ne parle pas de crise, qu'il ne va pas y avoir des vagues et les vagues et les vagues dont Vincent parlait, mais qu'en fait, ces crises, elles vont servir, pas uniquement à être des crises, elles vont servir à appeler un changement de monde. Alors, j'ai été invitée, je pense, pour cette plénière, pour l'action transversale que j'ai été aussi invitée à animer. Au sein des réseaux des zones ateliers. En fait, cette action transversale qu'on appelle dans le langage familier la THN2, elle est issue d'une série de workshops qui ont été conduits en 2018 pour essayer d'identifier des thèmes d'intérêt communs à l'ensemble du réseau des zones ateliers. Et parmi ces thèmes communs, il y avait la notion de relation en nature qui était assez émergente. Avec trois axes, marqué deux, excusez-moi. Un axe plutôt autour de la notion d'espèces emblématiques et comment ces espèces emblématiques allaient influencer les prises de décision dans les systèmes. Un axe, donc la THN2, que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui avec un exemple sur Wangé. Et un troisième axe qui est porté sur le développement de jeux pour essayer de reconnecter ou d'étudier les liens homme-nature et qui est porté par Sandrine Glatron de la zone atelier environnement urbain. Et donc, pour la THN2, on a aussi organisé beaucoup de réunions pour déjà s'interroger sur la question, l'objet de recherche. Et on s'est arrêté pour l'instant. Alors, c'est un processus qui continue d'évoluer. Et donc, je remercie l'Envie d'ailleurs pour le support apporté pour cette action. Mais la question aujourd'hui, c'est finalement quelle est l'influence des relations en nature sur l'évolution des socio-écosystèmes? On avait aussi émis l'idée de travailler sur l'évolution des capacités adaptatives des socio-écosystèmes, mais on n'en est pas là. Donc, et émerger différentes questions de recherche. Quels sont les cadres théoriques pertinents? Quels sont les indicateurs pertinents? Quelle base de données utiliser? Enfin, beaucoup, beaucoup de questions auxquelles personne avait beaucoup de réponses il y a un an. Donc, ce think tank a vraiment commencé à démarrer en 2019. L'objectif était vraiment de développer une approche chronosystémique et comparative qui reposerait sur l'étude des trajectoires à long terme des socio-écosystèmes au sein des zones ateliers. On est parti avec un grand nombre de zones ateliers, des gens qui étaient intéressés mais qui ne voyaient pas très bien comment monopoliser cette question et ces concepts qui étaient très transversaux, très interdisciplinaires, très fuzzy. Beaucoup de gens n'étaient vraiment pas très confortables avec les questions qu'on a abordées, mais on a quand même réussi à garder dans notre bateau de la THN2 6 zones ateliers. La zone atelier Loire-Armorique, Plaine et Val-de-Sèvre, la zone atelier Moselle, environnement urbain, et la zone atelier Wangé. Et aussi, sans oublier, la zone atelier Alpes, avec lesquelles on n'a pas collaboré forcément directement avec tous les intervenants, mais qui a beaucoup développé de réflexions aussi, et qui a l'initiative des approches chronosystémiques pour l'étude des socio-écosystèmes. Donc, au cours de ce. Et donc, voilà, à l'issue de ces réflexions, il y a plusieurs projets qui ont été menés par différentes ZA et qui feront l'objet de différentes communications dans ce colloque. Donc, Isabelle Charpentier qui parlera dans la session 4 et Valentin Cognard en session 9 et quelques posters aussi. Donc, je vous invite à aller découvrir ces travaux si vous vous intéressez à la trajectoire des socio-écosystèmes. Donc, une des premières questions qu'on s'était posée pour étudier l'évolution, c'était est-ce qu'on peut étudier l'évolution, prendre l'évolution des contributions de la nature aux hommes, qui est le cadre théorique qui est promu par l'IPBES. Est-ce qu'on peut utiliser ce cadre de l'IPBES comme un cadre d'analyse opérationnelle pour l'étude des trajectoires? C'est une des premières questions qu'on s'est posée. Et donc, c'est un petit peu l'exercice auquel je me suis confrontée et je vais vous présenter quelques résultats. Donc, j'imagine que nombre d'entre vous sont au courant de ce qu'il s'agit. Donc, c'est une évolution un peu du concept de service écosystémique, ce concept de Nature's Contribution to People en anglais, qui a pour vocation d'être un petit peu plus inclusif dans l'ensemble des valeurs qui lient les hommes à la nature. Il a été reproché au concept de service écosystémique d'ignorer un petit peu tout ce qui est valeur relationnelle et de se focaliser trop sur les apports instrumentaux de la nature. Et donc, ce concept de Nature's Contribution to People propose d'être plus inclusif dans l'inclusion de ces valeurs relationnelles à la nature. Alors, l'autre cadre... Donc là, j'ai mis un exemple. Alors, l'origine de qu'est-ce que l'on entend par relation en nature. Je pense que c'est un peu ça la question. Alors moi, je ne suis pas anthropologue, je suis écologue de formation et je travaille de plus en plus sur les sciences de la durabilité. Donc, je pense que là, ça serait intéressant d'avoir aussi des groupes de réflexion peut-être à l'intérieur du réseau qui réfléchissent à ces questions de décliner les relations homme-nature. Les cadres proposés aujourd'hui, en fait, relatent trois principaux types de valeurs, des valeurs instrumentales, des valeurs relationnelles dont je viens de parler, qui sont très ancrées sur les territoires, qui sont certainement très pertinentes pour le réseau des ateliers, et les valeurs intrinsèques de la nature, qui sont des valeurs morales inhérentes à la nature, dont tout le monde est le plus, peut-être plus au courant. Et pour réfléchir, on a aussi cherché des cadres de réflexion pour décrire justement ces relations de nature. Alors, il y a ces métaphores des relations de nature proposées par Christopher Raymond. Alors, je suis désolée, beaucoup de mes figures sont en anglais parce que je suis basée en Afrique du Sud et je travaille au Zimbabwe. Et pour transférer mon matériel, c'est plus simple de communiquer en anglais. Donc, j'ai laissé beaucoup de figures en anglais. Mais donc, Christopher Raymond décrit 5 types de métaphores. Des relations homme-nature. Et donc, il y a la production économique, où en fait, les humains, dans un système de production économique, les humains ont le droit d'utiliser des services écosystémiques à partir du moment où ils peuvent payer pour les produire. Dans le closed loop système, c'est un petit peu la même idée, c'est que les humains peuvent bénéficier des systèmes et des services, pardon, et des disservices. Donc là, la notion de service négatif est aussi, entendue. À partir du moment où ils sont monopolisés de manière, utilisés de manière durable, dans un système de stewardship, l'humain protège la nature pour ses valeurs intrinsèques essentiellement. On a aussi des modèles de food web, web of life, où on considère l'impact de l'humain sur le fonctionnement d'écosystèmes. Et enfin, le modèle de ecocural community, où là, on considère que les humains, alors qui est peut-être le modèle le moins connu, reconnu, on va dire, en Europe, mais qui est très, très présent en Afrique, où les humains ont une responsabilité de gérer les écosystèmes sur la base des connexions qu'ils ont avec des connexions spirituelles, physiques et sociales via ces systèmes. Donc, on a vraiment des dimensions spirituelles et sociales qui s'introduisent. Donc, on peut décrire les relations homme-nature à travers ce prisme. Mais ce qui m'importe aussi, et je pense que ça va faire l'objet de ma discussion, c'est aussi de s'intéresser aux interactions entre hommes à propos de la nature. Où là, j'ai mis en référence un article de Cécile Barnaud dans le Gen Society. Mais en fait, je me rappelle que c'était une réflexion de Jacques Weber. En fait, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Jacques Weber. On avait parlé justement de ses relations homme-nature et de l'évolution. Il m'avait dit, tu sais, Chloé, ce qui est très important, c'est de regarder les interactions entre hommes à propos de la nature. Donc, ce qu'on a fait dans la zone atelier Wang, on a d'abord discuté à quel type de données on pouvait regrouper pour travailler sur la trajectoire de ces socio-écosystèmes. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs collègues, Bekezela Noumalos, Inaïd Dervieux, Béatrice Bellon, Pierre-Cyril Renaud et Julien Blanco, qui, pour certains d'entre eux, vont présenter dans ce colloque. Et on a essayé de regrouper plusieurs types de données issues d'archives, de publications scientifiques, de suivi à long terme. Ça, c'est l'intérêt des infrastructures de recherche, type OSCAR et le RSEDA. Des bases de données de partenaires locaux aussi, par exemple, des bases de données sur les dégâts causés par les animaux. On avait aussi des données sur des entretiens semi-directifs, sur les perceptions des changements environnementaux, sur des gradients d'urbanisation. On avait des interviews sur des histoires de vie des gens qui vivent dans la zone atelier de Wangé. On avait accès à des images satellites, on avait des entretiens cartographiques. Donc, beaucoup, beaucoup de données qu'on a essayé de mobiliser et de faire rentrer dans un outil qui a été développé par l'ATHM2, par cette action transversale, et par Isabelle Charpentier de la zone atelier environnement urbain, qui présentera dans la session 4, qui a développé cet outil qu'on va voir, qui est assez intéressant, très intéressant, je dirais même, qui s'appelle la ZEDA Timeline, qui permet de rentrer des informations qualitatives sur des informations chronosystémiques qualitatives dans un fichier Excel, donc c'est très confortable pour des gens qui viennent des sciences dures, pour les visualiser. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a rencontré, donc là, dans mon travail, j'ai essayé de dissocier ici d'abord le contexte historique. Contextualiser les informations qu'on a, c'est crucial de comprendre quel est le système qu'on étudie. Dans le cadre du Zimbabwe, on retrouve le Zimbabwe, comme vous le savez tous, c'est marqué par une histoire coloniale forte. Donc, avant l'arrivée des colons, on avait des différentes ethnies, différentes tribus qui habitaient dans la zone de Wangé, des Nambia qui se sont fait plus tard un peu envahir, on va dire, par des Ndebele. Donc, ça, c'est des tribus d'origine africaine qui étaient établies dans la zone avec énormément, qui laissent aujourd'hui énormément de sites archéologiques partout dans la zone. Et donc, c'est en 1880 qu'arrivent les colons, Rhodes et la British South African Company, intéressés notamment par l'extraction, par les ressources minières qui étaient offertes dans la zone. Et donc là, on voit que cet outil, là, développé par Isabelle, nous permet d'avoir une vision un petit peu globale de l'évolution du système. Sur là, j'ai représenté 300 ans. en regardant différentes dimensions, telles que l'évolution des populations d'Européens, qui va avec les législations, les réformes qui sont mises en place, et tous différents types d'informations. Donc peut-être je vais reprendre avec vous un petit peu l'histoire de la zone. Donc entre les années 1880 et 1923, on a l'établissement des colons britanniques. Établissement, donc, comme je l'ai dit, qui se fait par l'attrait en fait pour les ressources minières dans la zone et qui s'est fait non sans résistance de la part des communautés locales. Et donc en fait, cette arrivée des colons s'ensuit de rébellions qui sont connues sous le nom de Matabele Wars. Mais très vite, ces colons vont mettre en place une politique de ségrégation en créant des réserves pour parquer les communautés locales. Donc ça, c'est ce qui est connu sous le nom de Native Reserve Commissions. Donc ça se fera sous l'effigie de la Native Reserve Commission. Et donc les indigènes, les personnes, les communautés locales sont parquées dans des Native Reserves désignés par les colons. Donc ça donne lieu à une première vague d'éviction. Les gens ont été enlevés des endroits où ils avaient l'habitude de vivre, comme le montre la carte en bas à droite, pour être parqués dans d'autres zones. Ensuite, entre 1923 et 1979, on retrouve une époque qu'on pourrait qualifier, enfin, ce qui marque cette époque, c'est l'institutionnalisation de l'apartheid, où les colons en fait, vont mettre en place une série d'actes et de lois et de législations pour entériner les droits de chacun. Et s'en suivront, en fait, ça légitimera d'une certaine manière l'éviction des populations locales de différents endroits. Et donc, on a plusieurs périodes, donc je vais essayer de passer très très vite, qui s'enchaînent. Ensuite, le Zimbabwe indépendant, avec notamment le développement de programmes communautaires. Je suis désolée, j'ai des problèmes avec Zoom. Développement de programmes communautaires où cette fois les populations locales vont être. On va leur redonner le droit d'accès à certains bénéfices de la nature. Et ensuite, au Zimbabwe, c'est une période d'effondrement total. Donc, ce qu'on a fait grâce à l'outil d'Isabelle, c'était de coder différents services écosystèmes, enfin, Nature's Contribution to People qu'on pouvait avoir à travers nos interviews, nos histoires de vie. Et donc, on a vu que finalement, utiliser ce framework de Nature's Contribution to People permettait de regarder différentes dimensions de l'évolution du système. Donc, on avait des informations sur la création d'habitats, sur la régulation du climat, sur supporter les identités locales, sur la régulation des organismes qui posent des problèmes, sur la régulation de l'eau fraîche, sur la production alimentaire et sur les valeurs intrinsèques. Et tout ça pour dire qu'on peut utiliser aussi cette frise chronosystémique pour faire une analyse un petit peu des transformations. Donc on voit au cours de l'histoire du Zimbabwe, finalement, en premier, on a une perte des identités locales, donc de ces populations en fait, qui vivent sur des modèles plutôt éco-culturels, qui s'accompagnent d'une transformation du système écologique. Donc, comme l'ont dit les présentations précédentes aussi, en fait, à cette époque, on va créer des points d'eau, on va tuer les prédateurs, ensuite tuer les herbivores, donc, ce qui va complètement changer les dynamiques écologiques du système. Et donc, à la suite de ces transformations sociales et écologiques, en fait, on part vers un nouveau système, vers un autre système. Donc, ces transformations vont avoir des répercussions à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la production alimentaire ou en 92, suite à d'importantes sécheresses, comme les gens avaient été relocalisés sur des terres très peu productives. On va avoir des événements de famine très importants qui va entraîner le développement de programmes alimentaires internationaux. Et donc ensuite, on a une phase d'effondrement avec l'effondrement de nombreux services. Je suis désolée, si j'ai plus beaucoup de temps, je ne peux vraiment pas expliquer grand-chose. Mais tout ça pour dire qu'en fait, en ce moment, en fait, on est aussi dans une phase de révolution un petit peu au Zimbabwe, dans le sens de la réorganisation, au sens de Holling, où il y a des résistances qui s'opèrent, il y a un renouveau un petit peu qui se fait aussi au niveau de l'accès des communautés locales à leurs sites culturels. Et donc, on voit que le système évolue et va vers un autre équilibre. On peut, je passe vite fait sur ces trois diapos. On a aussi utilisé le framework des relations en nature de Raymond pour regarder l'évolution de ces relations. Donc, on a une érosion des valeurs relationnelles endogènes au profit de valeurs instrumentales exogènes dans ce système, avec des événements de dépossession, ensuite d'institutionnalisation et de centralisation des relations homme-nature, où les modes d'interaction entre l'homme et la nature vont être dictés par des lois, et ensuite une internationalisation et une privatisation des relations homme-nature, avec des programmes comme la CITES, comme les parcs transfrontaliers, qui vont donner une autre dimension à l'utilisation de la nature pour différents types d'acteurs. Je trouvais intéressant, aussi je voulais vous parler récemment, il y a eu une discussion pour illustrer un peu ce propos au Parlement du Zimbabwe, où les gens remettent en cause des programmes tels que la CITES, en disant que la CITES est gérée par des gens qui ont détruit toute leur biodiversité, qui dénoncent aussi le fait que les gens, les communautés locales qui vivent aux abords du parc ne sont pas employées, ne bénéficient pas du tout de licences de serres protégées. Et à l'occasion de conflits hommes-folles, on a tendance à croire que finalement les animaux sont plus importants que des vies humaines. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le cadre des NCP pour décrire l'évolution d'un système? Je pense que oui. Mais en fait, ce qui nous a manqué, nous, dans notre analyse, c'est qu'il faudrait une intégration plus explicite dans ce cadre de l'IPBES, des NCP, des relations entre les hommes à propos de la nature. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas du tout proposé, en tout cas à ces échelles-là. Et que clairement, dans le cas du Zimbabwe, on voit qu'il y a des rapports de force très clairs, avec une dépossession quelque part. Mais je pense que cette dépossession, elle est aussi tout à fait valide en Europe et en France, notamment pour l'agriculture, à travers l'agriculture et d'autres modes d'utilisation de la nature. Donc, l'apport de l'étude des trajectoires du socio-écosystème de Wangé, c'est une coproduction de connaissances dans des consortiums pluridisciplinaires, la promotion de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, et des réflexions sur les limites des approches disciplinaires. En fait, pour nous, c'était très riche de partager nos points de vue, échanger nos données, discuter un petit peu sur qu'est-ce qu'on observait avec différents outils. Et ça permettait de raffiner collectivement la compréhension du système. C'est aussi des outils de dialogue pour les sciences un peu post-normales, donc dans des situations où les valeurs sont disputées, où les enjeux sont urgents. C'est important aussi de construire des outils, des bases de données, et construire de la connaissance surtout, qui fait sens à une diversité de personnes. Et enfin, ces outils peuvent aussi être utilisés pour tester des cas théoriques sur la résilience et les capacités adaptatives des systèmes. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais juste rajouter que, en conclusion, dans le cadre d'un programme qui s'appelle ProSulli, on a travaillé sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui dans le système de Wangé avec les populations locales. On leur a demandé qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour orienter votre système vers un avenir un petit peu plus durable. Et donc, ce que les gens, ce que ces communautés locales, les Nambia, les populations autochtones ont dit, c'était qu'il fallait nourrir une culture du respect. Et donc, je pense que ce message qu'on a soumis dans un appel à contribution de l'IPBES, ce message de nourrir une culture du respect, je pense qu'il est valable au-delà des problèmes du Zimbabwe. Et voilà, je vous remercie.